de Mangeau, Christian Favre.
La Suisse face à la digitalisation, le pays est-il prêt? Grande question qu'on pose depuis hier. Nous sommes toujours à Genève, émission spéciale à l'occasion de ces Digital Days. On va partir d'un constat. Selon plusieurs classements internationaux, la Suisse est championne de l'innovation. C'est notamment le WEF et l'IMD qui le disent. Mais elle reste à la peine sur le plan numérique. La Suisse doit se réveiller. Ce sont les mots, la formule utilisée ce matin dans notre matinale par Sébastien Kulin, qui est le patron de Digital Switzerland. Un sondage récent réalisé par l'UBS démontre que 40% des entreprises se sentent peu concernées par ce phénomène de la numérisation. Alors, ont-elles raison, ces entreprises, de ne pas se précipiter ou faut-il absolument rattraper le train pour ne pas rester à quai? Le cas échéant, comment faire pour prendre le bon wagon? Beaucoup d'images liées au train, c'est normal.
on est dans une gare.
On est dans une gare et quatre invités sont avec nous dans cette gare. Tout d'abord, Martin Vetterli, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président de l'EPFL, un grand défenseur de la numérisation. Raphaël Rollier est avec nous. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Responsable de l'innovation digitale chez Swisscom. Christophe Barman, bonsoir. Barman.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes le patron de Loico. C'est une jeune société qui offre des services aux entreprises qui souhaitent externaliser leur administration. On pourra sans doute en dire un peu plus. Et puis Maxime Morand est également avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes consultant en ressources humaines, ancien théologien. On va commencer la discussion tout d'abord en s'interrogeant sur ce constat de départ. Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce que c'est un problème? Martin Vetterli, déjà ce chiffre de cette enquête UBS, 4 entreprises sur 10 en Suisse qui se disent indifférentes face au phénomène de la numérisation.
Alors, je suis un petit peu
surpris
parce que
ça vous inspire?
Bon, ça m'a un certain souci parce que si vous demandez à la population, si vous demandez aux jeunes d'aujourd'hui, c'est pas 4 sur 10 qui sont indifférents, je pense que c'est 0 sur 10 puisqu'ils sont tous consommateurs de cette société digitale dont on parle. Et donc, je pense que les entreprises doivent être aussi à la hauteur sur ces sujets.
Christophe Marmont, vous êtes un jeune entrepreneur, on l'a dit. C'est pratiquement une start-up, un peu plus que ça même, votre entreprise, Loico. Est-ce que c'est quoi? C'est une question de génération. Les jeunes patrons, les jeunes chefs d'entreprise sont plus à la page par rapport à une vieille génération qui n'aurait pas encore compris, saisi tous les enjeux?
Bah, disons, quand j'entends ces chiffres, effectivement, c'est ce que je pense. On sait qu'en Suisse, je crois 40-50% des entreprises vont changer de main ces 5 prochaines années, en tout cas les PME. Et peut-être que la question est là, en l'occurrence, est-ce que les dirigeants de ces PME sont peut-être d'une génération qui n'a pas pris conscience que la digitalisation était juste incontournable pour nous, pour survivre?
Raphaël Rollier, on l'a dit, vous êtes le responsable de l'innovation digitale chez Swisscom, très grande entreprise, des dossiers capitaux pour une entreprise qui se base beaucoup sur la technologie. Chez vous, par contre, c'était une priorité. Ça fait combien de temps que l'entreprise a pris le virage?
Depuis toujours, finalement. Swisscom est en perpétuelle évolution, c'est-à-dire que notre métier se réinvente quasiment chaque jour. Donc on vit là-dedans et c'est pour ça qu'une des choses qui se passe, c'est qu'on essaye d'accompagner aussi nos clients dans cette transformation. Et des chiffres, comme vous le citez, me surprend beaucoup. Donc on est actuellement dans une étude aussi avec le canton de Vaud pour savoir comment réussir sa transformation numérique. Et puis on a souhaité le faire aussi avec des patrons d'entreprise qu'on a pris dans des ateliers pour essayer de comprendre quels sont leurs enjeux. Et ce qu'on a vraiment ressenti, c'est que tous savent qu'ils doivent y aller. La grosse question maintenant, c'est le comment. On est vraiment dans cette réflexion puisque c'est pas simple de pouvoir justement l'appréhender et faire les bons choix pour se numériser.
Oui, la question est absolument cruciale. Comment faire pour se lancer et le faire juste? On va l'évoquer, mais déjà terminer ce premier tour de table avec vous, Maxime Morand. Ce décalage en termes de génération, vous qui êtes un spécialiste aussi du monde des entreprises, vous le comprenez, vous le vivez aussi au quotidien?
Je n'y crois pas du tout, parce que nous sommes tous y-isés, donc nous sommes tous dans la numérisation, dans la digitalisation d'une façon ou d'une autre. Et j'allais dire, vous avez des grands-parents qui regardent leurs enfants avec, des processus informatiques qui sont juste inouïs. Donc nous sommes tous dans ce monde-là, mais ça va supposer des choses qui vont faire que nos organisations, le leadership dans les organisations, vont changer. Et vraisemblablement, nous ne sommes pas encore prêts à vouloir diriger des équipes ou à sertir des équipes avec leurs compétences dans ce nouveau monde-là qui est sous nos yeux. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait un clivage de génération, c'est un clivage de mentalité. Et je pense que c'est un phénomène plutôt de vitesse que de génération.
C'est vrai qu'avant de commencer ce débat, vous avez tous pris des photos de vous pour montrer avec vos téléphones intelligents. Donc, ça montre effectivement qu'on est tous connectés un peu. Mais la question de base, c'est comment investir juste. Alain Berset, en début de cette émission, rappelait qu'au moment de l'industrialisation, le Royaume-Uni et la Suisse étaient les premiers à avoir saisi l'opportunité et s'était lancé là-dedans. Martin Verterli, qu'est-ce qu'il faut faire finalement ? Se lancer dans tous les sens, quitte à peut-être rater quelques expériences, ou est-ce qu'il faut déjà, d'ores et déjà, choisir quelques points dans la digitalisation où on peut devenir des leaders mondiaux ?
Alors moi je vais répondre par, ça vous étonnera pas, par l'éducation. Donc il est absolument nécessaire que les générations actuelles soient formées à ces nouvelles pratiques, ces nouvelles façons de penser. Donc j'insiste, c'est pas la programmation, c'est une façon de penser le monde numérique qui est différent du monde du XXe siècle. Ça c'est une chose. Je pense aussi qu'il faut prendre les gens avec nous. Donc il faut aussi offrir des post-formations parce qu'il y a des gens qui devront potentiellement adapter leur métier. Et pour ça, on a besoin d'offrir des outils pour qu'ils puissent faire partie de cette transformation.
Mais c'est de l'investissement, c'est de l'argent aussi. Est-ce qu'on ne peut pas investir dans tous les sens ? Là aussi, il faut faire des choix, même pour la formation et la post-formation.
Moi, je pense qu'il faut que la société, dans son ensemble, participe à cette transformation. Il faut faire extrêmement attention qu'il n'y ait pas un clivage numérique, qu'il n'y ait pas un clivage entre des gens qui maîtrisent cette transformation et d'autres qui sont des laissés pour compte, parce que ça serait extrêmement grave. On l'a vu dans d'autres pays, on a vu les résultats politiques que ça donne.
Avant de développer un peu davantage sur la question de la formation, peut-être Raphaël Rollier, vous qui êtes responsable de l'innovation digitale chez Swisscom, comment est-ce qu'une entreprise elle fait pour ne pas se tromper ? Parce qu'il y a beaucoup de chemins, aujourd'hui c'est des domaines qui sont encore parfois en phase d'expérimentation, on ne sait pas toujours où on va exactement. Un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui, comment il va savoir quel chemin prendre ? Est-ce qu'il faut s'inspirer de ce que font les autres ? Comment on fait ?
Ouais, je pense que maintenant, il y a un certain recul. Donc, il faut s'inspirer des exemples qui ont bien fonctionné. Et quand on parle d'investissement, effectivement, il y a eu beaucoup d'erreurs par le passé où on a voulu faire de manière traditionnelle, investir, faire des projets sur de longues années. Alors que d'autres, qui finalement étaient à l'affût pour survivre, se sont déjà réinventés. Un exemple assez frappant et illustrant, c'est par exemple la société italienne qui fabrique des machines à caper, la Cimbalis. Donc, si vous allez au restaurant, vous voyez cette magnifique machine en chrome. Et eux, après la crise de 2008, finalement, les restaurateurs n'arrivaient plus à acheter ces machines puisque les banques ne prêtaient plus. Et donc, ils se sont posé la question de la numérisation. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit, ben voilà, allons sur quelque chose de très simple. On ne va pas essayer de mesurer la quantité de café, la pression. On veut juste savoir, en utilisant ce fameux terme de l'Internet des objets, puisqu'on voit que ça arrive, le nombre de cafés tirés par les machines. Et ça leur a permis de changer radicalement leur modèle d'affaires puisqu'ils ont pu fournir ces machines et la facturer au nombre de cafés utilisés. Donc on voit qu'il faut le prendre par le bon bout, il faut aller de manière agile pour pouvoir le faire puisque cette société est maintenant sortie et est très profitable grâce à un changement aussi de modèle d'affaires et de manière de vendre ses produits.
Christophe Barman, ouais. Oui. C'est intéressant, vous avez vous-même votre entreprise. Quand vous entendez ce genre de réflexion, c'est un petit peu les réflexions que vous devez mener pour éviter de vous faire dépasser, puis tout d'un coup de ne plus être à la page et de voir tout votre modèle d'exploitation qui s'envole.
Oui, c'est tout à fait juste, on doit se repenser complètement. Alors, la problématique qu'on vit, on vit aussi un petit peu un clivage au niveau des capacités d'investissement. Parce qu'on entend parler de Swisscom, il faut savoir qu'en Suisse, de nouveau, il y a 600 000 entreprises, dont 595 000 PME, je crois. Et il y en a beaucoup qui sont simplement, qui sont même pas digitalisées au niveau de la gestion des documents. Donc le simple fait de gérer les documents, de les scanner, d'avoir accès pour tous les collaborateurs, dans certaines boîtes, bah, c'est fait depuis très longtemps, mais dans beaucoup, beaucoup de PME, c'est même pas fait. Donc il y a d'abord un travail, comme vous l'avez dit, de savoir ce qu'on veut digitaliser, par quel biais on prend la chose, et ensuite après les investissements peuvent être énormes si on veut être dans le train. Et il faut savoir que vous le vouliez ou non, si aujourd'hui vous ne montez pas dans le train, dans un domaine comme le nôtre, on fait des services administratifs pour vos entreprises, on sera super rapidement dépassé, et puis nos concurrents vendront mieux, moins cher, et on sera dehors du marché simplement.
Raphaël Rollier expliquait l'exemple de cette entreprise qui fait des machines à café et qui a fait quelque chose de très très simple. En Suisse, on a cette réputation de Swiss finish, de toujours vouloir être au-delà du parfait, enfin de tout penser jusque dans le moindre détail. C'est peut-être pas ça qui risque justement d'entraver les entrepreneurs en Suisse, Christophe Barman.
Oui, c'est possible. J'étais dernièrement dans les séances de réflexion avec d'autres entrepreneurs sur par quel biais on devait prendre, où il fallait commencer avec la digitalisation. on avait des réflexions incroyables sur la robotisation, sur l'intelligence artificielle, alors que la majorité des entrepreneurs, en fait, eh bien, n'avaient même pas automatisé leurs processus centraux. Donc oui, c'est possible, faisons attention à ne pas être trop complexe, compliqué. Commençons par ce qui est utile et prenons les problèmes par le bon bout.
Qu'est-ce qu'il en dit, le président de l'EPFL, Martin Vatigny?
Écoutez, je ne vais pas vous surprendre. Moi, je suis un défenseur de la qualité suisse. Je pense que la spécialité de la Suisse, c'est de faire peu de choses, mais extrêmement bien. Si vous êtes dans un domaine comme le MedTech, je pense que c'est la qualité qui compte, c'est pas la quantité.
Les techniques médicales.
Les techniques médicales, merci.
Je traduis.
Et je pense qu'il y a toute une série de créneaux où la Suisse est connue pour la qualité de ses produits, la qualité de son travail, la sécurité. Et je pense que c'est là où il faut travailler. Mais ces métiers-là aussi sont transformés par la numérisation.
Maxime Morand, le goût du risque, c'est une qualité parfois qui est très suisse, parfois qui ne l'est pas du tout. Est-ce que dans ce domaine-là, vous sentez les entreprises prêtes?
Oui, mais à ceci près qu'il faut prendre en compte, j'ai appris qu'un logiciel informatique, pour être développé, il ne fallait pas être intelligent et planifié, il fallait lui mettre un bug. Comme ça, il allait se développer tout seul, il fallait mettre un deuxième bug et ensuite il allait se développer. Et moi, j'attends que dans la Suisse, on se fasse des bugs. C'est-à-dire que quelque part, on se ramasse des choses qui ne vont pas dans le bon sens que l'on veut avoir pour tout d'un coup se réveiller et développer des nouveaux modèles d'affaires. Et au fond, les entreprises que j'accompagne, elles se mobilisent dans le changement que lorsqu'il y a un bug.
Raphaël Relier.
Je souhaite d'un bon bug.
Des bugs pour avancer. C'est peut-être ça qu'il faudrait dans ce pays où tout va trop bien.
Oui, moi je pense que c'est la clé. C'est un peu le numérique, c'est d'abord une culture et la culture de l'échec, la culture d'essayer. Et je suis d'accord avec vous qu'il faut, il faut pouvoir se lancer, essayer, et on n'arrivera pas du premier coup. Je pense qu'une Team Bali ne l'a pas non plus réussi son virement dans le numérique rapidement. Et puis il faut tester. Je suis actuellement dans le jury de concours Le Meilleur du Web sur l'innovation, où il y a un fer à repasser qui a été mis en place, qui est connecté. Et je dois admettre qu'après 15 minutes, j'ai toujours pas vraiment compris la valeur ajoutée de connecter un fer à repasser.
C'est la question que je me posais d'ailleurs.
Et donc, bah, tant mieux. Je pense qu'ils ont raison de le faire. Et puis, on verra bien s'il y a un succès sur le marché ou s'ils devront adapter. Je pense que le monde des startups nous apprend aussi beaucoup si on travaille avec eux pour pivoter, parce que finalement une bonne idée, une fois qu'on l'a mise sur le marché, peut ne pas être une si bonne idée.
C'est intéressant ce que vous dites, Raphaël Relier. Puis ça nous lance droit sur la thématique suivante, ce sont les enjeux de formation, Martin Vetterli. Vous vivez ça au quotidien, vous avez une pépinière de start-up au sein de l'EPFL, vous êtes quelque part dans cette bulle de technologie, d'innovation, de réflexion, très connectée, mais il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui ne comprennent pas quand on parle justement de connecter un fer à repasser. Ils ont de la peine à se sentir, et peut-être qu'aussi ça s'exprime sur les parcours que certains choisissent de faire en termes de formation, avec pas forcément le sentiment que l'avenir, le futur se joue là. Quel est votre rôle ici pour faire cet aiguillage?
Alors, je pense qu'on a un triple rôle. Je pense qu'à l'intérieur des formations à l'EPFL, on doit être évolutif. Donc on vient de lancer un nouveau programme de master dans la science des données, sujet super important, déjà très populaire. D'autre part, on doit transversalement, dans toutes nos filières de formation, à amener le numérique comme une façon de penser. C'est aussi une transformation en cours. Ensuite, on a un rôle de vulgarisation. On doit expliquer dans la presse dominicale, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça signifie un algorithme et comment marche Facebook, etc. Je pense que c'est aussi un rôle qu'on doit faire. Et on doit aider aussi dans la post-formation ou la formation des gens qui ont besoin de suivre la révolution digitale.
Maxime Morand, M. Vetterli parle de la post-formation. C'est un petit peu ce qu'on disait, il y a ce décalage, parfois ce gap, un certain nombre de citoyens qui ont un petit peu de la peine à suivre parce que tout ça est très compliqué, ils n'ont pas forcément eu des formations adéquates au départ. Est-ce qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on se donne les moyens de faire en sorte que personne ne reste à quai, pour rester dans les métaphores de train, vu qu'on est à la gare de Courneuve?
Bon, ben, je suis très heureux de savoir que nous avons des locomotives dans notre pays qui vont tirer la formation en avant. J'ai bien aimé le mot transversalité, parce qu'au fond, la digitalisation va obliger la transversalité. Ça veut dire qu'on ne parle plus en silos et dans des branches. Donc, ça veut dire que l'éclatement même de l'université, de l'EPFL par branche, est programmé. Ça veut dire qu'au fond, que nos enseignants qui enseignent par des branches vont être déprogrammés. Et ma grande inquiétude, c'est quels seront les formateurs des formateurs. quelles seront les personnes demain qui vont appuyer les personnes qui seront des institutrices, des instituteurs, qui vont apprendre aux enfants à être un jour des interlocuteurs dans ce nouveau monde qui est là.
Parfois, ils sont dépassés par les enfants, même.
Ils sont dépassés par les enfants. Enfin, je suis dépassé par les miens. Hein, donc, je conseille à tout dirigeant à l'heure actuelle, parce que c'est le monde, c'est d'avoir un assistant jeune qui sort de l'EPFL, payé pas trop cher, qui disent à ce grand manager, par exemple Maxime, virgule, vieux con, virgule, si j'étais à ta place, voici ce que je ferais. Donc, il faut aujourd'hui que l'intergénérationnel se programme aussi dans les entreprises. C'est-à-dire, au fond, on ne peut plus avoir des gens qui ont le pouvoir et qui disent à des stagiaires ce qu'il faut faire. Il faut qu'il y ait des stagiaires qui aient aussi le pouvoir de dire à un manager ce qu'il pourrait faire.
Raphaël Rolli, on entend souvent qu'en Suisse, on manque de spécialistes. On en parle dans la cybersécurité, mais pas seulement. Qu'on manque de ce personnel spécialisé. À Swisscom, vous arrivez à trouver suffisamment de gens? Quelles sont concrètement les questions que se posent au moment du recrutement? Vous avez les spécialistes qu'il faut?
Non, c'est sûr que l'accès aux spécialistes, et notamment dans un de ces domaines qui émerge, qui est la donnée, la valorisation des données, ils ne sont pas si simples à trouver. Une des pistes qu'on a fait, c'est finalement de s'établir là où se trouvent les spécialistes. Donc on a ouvert un Digital Lab à l'EPFL, et ça nous permet évidemment d'avoir un accès simplifié à ces ressources, et puis de les découvrir aussi, puisqu'on fait beaucoup de projets de master avec ces personnes-là pour travailler avec eux. Mais je voulais aussi rebondir sur l'intergénérationnel, parce qu'on a fait aussi ces ateliers avec l'industrie 4.0, qui est quand même quelque chose d'important de mettre en œuvre. Et là, il y a un réel enjeu de transfert de savoir entre les générations, parce que finalement, ces personnes qui sont là depuis 40 ans devant les machines, qui la connaissent, qui la sentent, il faut qu'ils transmettent ce savoir à ces jeunes qui vont, eux, prendre la relève en numérisant et apportant leur côté de natif du digital. Et c'est un des enjeux aussi de faire ce transfert de connaissances intergénérationnelles.
Mais quand on parle de ça, est-ce qu'on se raconte des histoires ou est-ce que vraiment ça se passe dans les entreprises? Est-ce que chez Swisscom, par exemple, il y a vraiment des programmes qui sont mis sur pied pour que les personnes, par exemple, d'un certain âge, soient formées, soient mises à jour et puissent vraiment intégrer les équipes les plus innovantes, les plus performantes, et que ce ne soit pas uniquement des jeunes qui poussent?
Oui, donc on essaie d'avoir un programme de formation continue. Je pense que c'est important de le faire. Et il faut se rappeler pour ça, par exemple, que Swisscom, il y a encore quelques dizaines d'années en arrière, quand vous faisiez un appel téléphonique, il y avait une personne qui, physiquement, allait faire l'interconnexion. Ces personnes sont toujours là, mais ils font d'autres choses. Il y a quelques temps, qui, elles, maintenant, s'occupent du Wi-Fi, quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. Donc, cette évolution arrive. Une chose qui se passe beaucoup chez Swisscom, c'est qu'on fait beaucoup appel à des jeunes pour faire des stages, et notamment dans ces nouveaux métiers comme les médiamaticiens, on en a énormément qui, eux, apportent cette utilisation intuitive des nouvelles technologies, puis qui la montrent aux autres personnes qui ont 30, 40 ans d'entreprise chez Swisscom.
Christophe Barman, on a l'image des start-up avec des jeunes de 25 ans digital natives et pas vraiment d'intergénérationnel. C'est le cas chez vous? Il y a quand même des personnes un peu plus âgées qui amènent une autre expérience de la vie en entreprise?
Ah non, oui, clairement. Alors, chez Loico, on a, je crois, 33 ans de moyenne d'âge sur nos 85 collaborateurs.
Et c'est jeune,
pas,
hein.
Je crois que c'est relativement jeune, mais je crois pas que les personnes plus âgées sont les plus bloquants. Je crois que de manière générale, en fait, c'est plutôt une question de métier qui doivent évoluer. Chez nous, on parle pas de jeunes qui doivent apprendre aux plus âgés. On parle de gens qui maîtrisent des métiers dans la comptabilité, dans les salaires, et dont les métiers vont devoir évoluer et qui vont devoir évoluer avec eux. Donc le challenge, la formation de ces personnes-là, quel que soit leur âge, est super important pour nous. Je vais donner un petit exemple très concret. On a des gens chez nous qui gèrent des salaires et qui émettent des feuilles de salaire. Ces personnes-là, d'ici quelques années, une partie de leur travail sera automatisée par la machine, par l'intelligence artificielle. Donc on doit pousser ces gens à apporter une valeur ajoutée supplémentaire aux clients et également à se former au niveau informatique. Un exemple, on a des gens qui avant géraient des salaires et qui aujourd'hui programment des machines chez Loico.
Martin Wetterli, président de l'EPFL, ça veut dire quoi? L'informatique, c'est une branche parmi d'autres, ou est-ce qu'il faut considérer l'informatique comme à la base de tous les processus?
Je pense que l'informatique va faire partie de beaucoup de métiers qui vont au-delà de l'informatique. Je dis parfois, l'informatique est trop importante pour être laissée aux informaticiens. C'est-à-dire qu'il y a une façon de penser les problèmes, de résoudre les problèmes qui est nouvelle et qui est qui est réalisé grâce à la numérisation, ce qui veut dire en tout cas dans toutes nos formations à l'EPFL, il y a besoin d'évoluer dans la formation du côté informatique. C'est la transversalité que je mentionnais tout à l'heure.
Tout le monde ici dit il faut faire cette transition et puis les métiers changent et puis personne, finalement, si je vous écoute, personne n'est vraiment laissé au bord du chemin. Maxime Morin, est-ce que c'est vraiment aussi idéal que ça, cette société? Parce que l'informatisation, quand même, ça va entraîner un certain nombre de suppressions d'emplois. Il faudra bien occuper tout le monde ne va pas pouvoir avoir l'idée de génie et créer sa propre start-up.
Bon, on voit qu'aux États-Unis, il y a pratiquement 51% des nouveaux jobs qui sont des jobs d'indépendants. Donc on se retrouve dans un iceberg du monde du travail et du leadership qui tourne sous nos yeux dans une mer chaude.
Indépendant, ça veut dire moins d'assurance sociale. C'est tout un système social à remettre en question.
Exactement. Donc là, il y a un véritable beau chantier, parce que je ne pense pas que ce soit un chantier qui doit effrayer tout le monde, de recomposer la société en termes de protection sociale et d'être dans le travail et dans le leadership. Mais je voudrais juste mentionner quand même une chose, parce qu'on parle beaucoup de tech, on ne parle pas assez de touch. Et j'aimerais qu'on lie le tech et le touch. Parce que je pense qu'au fond, la digitalisation va obliger à ce que l'humain soit augmenté. Donc ce n'est pas une logique de « ou », c'est une logique de « et ». Et je pense qu'il faut développer en même temps, j'allais dire, des réflexions philosophiques, des réflexions d'être au monde, d'être au travail, d'être leader, qui sont aussi importantes, entre guillemets, que les outils que nous aurons, j'allais dire, à disposition, comme des prothèses qui vont augmenter notre capacité. Et les deux mouvements devront être gérés ensemble. Donc moi, j'aimerais recommander au président, M. Vetterli, de faire une chaire de philosophie à l'EPFL.
Qu'est-ce que vous en dites, Martin Vetterli? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que finalement, aujourd'hui, on vit derrière son écran. C'est là qu'on va au cinéma. On ne va plus au cinéma. On cherche des films à la maison. On achète depuis son écran à la maison plutôt que d'aller dans les magasins. On gère nos contacts avec nos amis sur Facebook et d'autres supports. Et les gens ne se rencontrent plus. Ça, c'est un des grands enjeux de cette numérisation. Il ne vous inquiète pas un peu, cet enjeu-là?
Tout à fait. Donc, mais j'aimerais répondre à la suggestion de M. Morand, qui est une très bonne suggestion. D'ailleurs, on y pense. On a déjà au concours une chaire dans l'histoire des sciences et des technologies qui en partie répond aux transformations, aux révolutions industrielles, comprendre ce qui se passe, comment les appréhender. Et on est en discussion, évidemment, sur les questions d'éthique, parce que tout ce qui a à voir avec l'intelligence artificielle pose des questions éthiques. Ce n'est pas le seul domaine des sciences qui pose des questions éthiques, mais celle-là est très importante. Sur la question que vous posez, finalement, on est tous là autour d'une table. Et je pense qu'on est content d'être ici, plutôt que d'être sur Skype ou d'échanger des SMS ou je ne sais pas quel média électronique. Ça, c'est aussi la question posée par M. Morand. Ça remet en fait l'humain au centre de l'action. C'est-à-dire on doit définir qu'est-ce qui nous fait vraiment des êtres humains, qu'est-ce qui nous rend la vie intéressante, que ça vaut la peine d'être vécu, et des choses répétitives, peu intéressantes, pénibles, sont peut-être remplacées par la numérisation, les robots, etc.
Raphaël Rollier, je crois que vous voulez réagir.
Oui, moi je voulais prendre une magnifique phrase de Joël de Rosnes sur ce thème-là, qui parle « Le travail aux robots, la vie aux humains ». Et je pense que c'est exactement ça, et c'est ce qu'on vit notamment aussi chez Swisscom, où il y a certaines tâches répétitives qui peut être donné à ces algorithmes d'intelligence artificielle pour pouvoir être plus dans l'empathie, dans la discussion avec le client. C'est pour ça qu'on travaille actuellement sur nos centres d'appel, où finalement on a plus de 4 millions d'appels chaque année là. Et si on peut finalement faire des tâches très compliquées ou rébarbatives, d'aller chercher parmi les cas passés et laisser ça à la robotique pour pouvoir ensuite plus s'occuper du client, comprendre son problème, je pense que là on aura gagné. Donc il faut trouver un moyen d'être en symbiose finalement avec cette évolution technologique.
Bien, c'est un joli mot de la fin que vous nous livrez, Raphaël Rollier. Plein d'optimisme et plein d'espoir, en tout cas sur cette société de demain qui parfois inquiète un petit peu, mais qu'on se réjouit de découvrir. Merci infiniment, messieurs, d'avoir participé à cette discussion. Martin Vetterli, Raphaël Rollier, Christophe Barman et Maxime Morand. On vous souhaite une très bonne soirée. On part tout de suite du côté de Michel Eman à Lausanne pour prendre des nouvelles de la météo et de la route.